Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bon, vous entendez les bruits? Voilà. Bon, je me présente très rapidement pour celles et ceux qui découvrent le Café Studio. Donc, Nicolas Véré, et avec Laurence, on co-anime à tour de rôle le Café Studio qui se tient une fois par mois. Alors, normalement, c'est le deuxième mardi de chaque mois. Là, exceptionnellement, c'est le premier. Parce que congé scolaire la semaine prochaine. Et normalement, comme je l'ai dit, le Café Philo se déroule en centre-ville au lycée Jean Zay qui nous accueille très amablement. Alors voilà, ça fait longtemps qu'on a pour projet de délocaliser, entre guillemets, la structure à la source et à d'autres quartiers, voire même dans des villes environnantes d'Orléans, de la métropole, pourquoi pas. Pourquoi ce projet? Pour essayer de. C'est le monde de Diderot, il ne faut jamais trop citer. Diderot, il avait ce mot rendre la philosophie populaire. Rendre la philosophie populaire, et on prend l'expérience. Voilà, essayer de faire en sorte que des structures comme la nôtre, une association comme la nôtre, un café philo comme la nôtre, puisse aller au-delà des murs des lycées, et puis au plus près des gens, les préoccupations de nos concitoyennes et concitoyens. Donc voilà. C'est un saint pari, on va voir. Et puis moi je suis vraiment ravi d'être là ce soir parmi vous. Donc je présente très rapidement le déroulé d'un café philosophique pour celles et ceux qui n'auraient jamais pratiqué. Donc ce n'est pas du tout un cours de philosophie, même si je suis enseignant en philosophie. C'est vraiment un lieu et un temps d'échange collectif, collégial, cordial. À partir d'une question que vous allez proposer, si vous souhaitez. Donc, dans ce premier moment, donc, vous pouvez suggérer des thématiques, des thèmes, des interrogations, sur lesquelles vous aimeriez que l'on débatte ce soir. Et puis ensuite, on fait un petit vote très cordial. On peut voter pour autant de questions que l'on souhaite au débat. On choisit la question, le thème sur lequel on a envie de se pencher. Et puis c'est parti. Voilà, on démarre et c'est chouette. Voilà. Et le tout étant terminé par. Vous me corrigez si je ne sais pas me tromper, je ne vais pas faire une mauvaise annonce, on a bien un repas partagé après, un petit pot. Ouais, c'est ça, il y a un pot d'accueil, enfin un pot de base d'accueil, il y a un pot de convivialité. D'accord. Très bien. Donc voilà, il faut rester jusqu'au bout. Voilà, mais écoutez, je vous laisse la parole et puis proposer, si vous en avez, des questions, des interrogations, pardon, vers lesquelles vous voyez que nous revenons ce soir. Donc, il n'y a pas d'obligation de proposer, il n'y a même pas d'obligation de prendre la parole. Sans jamais prendre la parole. C'est une très bonne façon de passer un bon moment. Voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ah, ça peut être un petit peu intimidant, mais. Oui, monsieur.
Étant donné les circonstances, y a-t-il des guerres justes?
Y a-t-il des guerres justes ?
Toujours étant donné les circonstances. Je ne sais pas comment la poser, mais assiste-t-on au retour de la banalité du mal ?
Oui, donc ça peut-être expliquer ce que l'on entend par la banalité du mal.
Je connais le concept, je ne suis pas forcément capable de bien le développer, mais c'est Hannah Arendt qui en a parlé.
C'est Hannah Arendt, la philosophe, qui assiste au procès d'Adolf Eichmann en 1961 à Jérusalem. Adolf Eichmann était l'un des hauts dignitaires nazis qui avait réussi à s'exfiltrer après la Seconde Guerre mondiale. Donc il est arrêté et il est mis en procès. Et elle va en tirer un ouvrage assez retentissant qui est devenu très célèbre, Eichmann à Jérusalem, ou sous-titre de la vanité du mal. L'idée qu'on peut être un homme ordinaire et commettre, parce qu'on est un homme ordinaire, les pires atrocités. Donc est-ce que l'on assiste à un retour de la banalité du mal, de cette violence qui serait pratiquée et diffusée par des hommes et des femmes.
Le mois dernier, on nous a parlé de la mairette, mais sur l'aspect.
Sur l'aspect d'hospitalité. Très bien, donc, pour l'instant, deux propositions. Y a-t-il des guerres justes ? Et puis, la question de savoir si cette banalité du mal, elle est encore aujourd'hui effective dans notre société. Dans le cas de la guerre en Ukraine, mais. Il y a plein de questions, en revanche. Alors, les gens, pas les questions, c'est pas complet. Je sais pas.
Est-ce que l'on pourrait parler de la solidarité ? Solidarité.
Sur le terme de la solidarité. Et alors, est-ce qu'on pourrait préciser peut-être ce que vous avez en tête,
madame ? La solidarité, je pense, partage à l'accueil. C'est toujours dans le même contexte que la suite du contexte des questions qui viennent d'être proposées.
D'accord. Comment être solidaire aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut l'être ?
Est-ce qu'elle est quelquefois discutée ? Enfin, je ne sais pas comment c'est. On parle de solidarité, mais le mot n'a pas le même sens suivant les personnes à qui elle s'adresse.
Je voudrais revenir sur la notion que vous avez donnée il y a quelques minutes sur la banalisation du mal. Juste comme ça, et ça me fait penser à un texte qui avait été écrit par José Plia, qui est un auteur franco-béninois, qui avait subi des atrocités entre les Hutus et les Tutsis, et qui voulait justement parler de cette banalisation du mal et du contexte politique qui fait que les peuples ont l'impression que ce qu'ils font est légitime. Et il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Famille ordinaire, qui est une pièce de théâtre qui se passe en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une famille allemande, protestante, qui en fait ne comprend pas. Et c'est un huis clos. Et en fait, la famille ne comprend pas ce qui se passe et a l'impression depuis des décennies qu'il faut effectivement exterminer le peuple juif, etc. Donc lui s'est servi de son expérience personnelle pour parler de quelque chose de plus ancien. Et en fait, dans cette pièce, on voit très clairement en fait cette incompréhension et cette manipulation politique qui fait que les gens ne se rendent pas compte en fait de la souffrance qu'ils vont engendrer et du mal de ce qui est en cours.
Donc, ouais, c'est juste. Je proposerais bien, lorsqu'on voit l'histoire de l'humanité, est-ce qu'on peut penser que la violence est inhérente à l'être humain ? D'accord, regarde ça. savoir si la violence est humaine, et par définition humaine, ou si l'humanité est par définition violente. Est-ce qu'on peut penser que l'humanité se libérerait de la violence?
Bonsoir à tous. Moi, je proposerais un thème un peu plus large. Ce serait l'homme est-il capable de se limiter?
Peut-être, oui, pour l'Assemblée, oui.
C'est sur la question des limites, en fait, les toutes formes de limites. Je pense les limites à la croissance, notamment, par rapport à Windows, ça va être les limites d'un pays, les frontières d'un pays, est-ce qu'on est capable de respecter ça?
Voilà, c'est très bien. Le rapport de l'homme à la limite. À la limite. Donc la question des guerres justes, y a-t-il des guerres justes ou y a-t-il une guerre juste? Est-ce qu'on peut penser l'association de ces deux termes? La question de la banalité du mal assiste à un retour. C'est un retour. Il y a encore une préexistence de la banalité du mal. La question de la solidarité qui est évoquée, notamment à partir de l'accueil. Offrir ou ne pas offrir à ces deux solitaires dont on aurait besoin. Et puis, la question des limites, savoir si l'homme est en capacité de se donner à lui-même ses propres limites. Et puis, la question de savoir si la violence, c'est l'horizon indépassable de l'humanité, ou si on peut penser une alternative, qui serait une alternative non violente, savoir si c'est une utopie. Si vous avez d'autres propositions? Non? Alors je vous propose, encore pour celles qui ne connaissent pas la petite façon dont on procède, donc on va procéder au vote et puis on peut voter là pour toutes les propositions qui nous semblent pertinentes. Donc, la première question qui nous avait été proposée, c'était la question de la guerre juste. Y a-t-il une ou y a-t-il des guerres justes? Deuxième proposition sur la banalité du mal. Sommes-nous encore dans l'ère de la banalité du mal? Ces hommes et ces femmes ordinaires qui peuvent commettre le pire. La banalité du mal.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17.
Troisième question dans l'ordre, savoir comment articuler, comment penser, comment vivre, peut-être. Ça peut être d'abord ça, la vraie question, comment vivre la solidarité aujourd'hui par rapport à l'épisode que nous vivons, mais de manière plus large, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La question de la violence, savoir si l'humanité est par nature violente, si on peut penser qu'elle puisse se libérer de cette dimension. Est-ce qu'on peut penser l'humanité sans violence?
1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Plusieurs fois. Pas comme dimanche.
C'est une fois dimanche, mais c'est une fois.
Pas au bureau de vote.
des façons de vérifier.
La dernière question que tu m'avais proposée, c'était de savoir si, de manière plus large, l'homme ou l'humanité est en capacité de se fixer des limites. Est-ce qu'il y a des limites à l'humanité? Est-ce qu'il est capable de s'en donner et de respecter les limites particulières? Plus de raisons possibles. Un, deux, trois, quatre.
Le sujet qui arrive en tête, c'est assiste-t-on au retour de la banalité du mal avec 17 voix, suivi par deux ex-échos, la violence est inhérente à l'être humain et l'homme est-il capable de se limiter. Et puis après, on a y a-t-il des guerres justes et on a vu comment articuler la solidarité. Celui qui arrive en fait, c'est la
banalité
du mal.
Très bien, voilà, pardon. Qu'est-ce qu'ils font, non? Monsieur, je vous laisse. Donc, je vous donne la parole. Pour essayer peut-être voilà, de voir voilà, ce que vous avez en tête, qu'est-ce que vous avez. Alors, poussé à sujet, cette
thématique. Déjà, en tant que chrétien, je voulais vous dire bienvenue à ma source. Parce que comme on joue local aujourd'hui, c'est bien de décentraliser, même si ça n'a pas forcément beaucoup de succès, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas renouveler.
On commence.
Qu'il ne faut pas insister.
On commence.
Oui, pourquoi il se trouve que j'ai découvert Adam Arendt il y a quelques années dans un cours UTL, auprès avec quelqu'un qui s'appelait. Donc Thierry Carnissan-Louvier, je vais dire TTO parce que je connaissais vraiment ce son pseudonyme, et on était tous les deux à ce cours. Et donc j'ai eu un peu de mal avec cette personne parce que je trouvais que ses textes étaient très 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 difficiles. Mais malgré tout, j'ai insisté, j'ai essayé de comprendre et j'ai essayé d'apprendre un petit peu. Donc je ne sais pas grand chose sur un arrêt, mais je trouvais cette théorie de la banalité du mal très intéressante. Et c'est vrai que là, depuis quelques jours, quand on voit notamment ce qui s'est passé ces derniers temps avec les actions, les charniers, les homicides gratuits, ça fait beaucoup penser dans une. C'est vrai que c'est pour ne pas dans le même contexte, pour ne pas. À la même époque, mais ça fait aussi passer, quand les Allemands sont retirés de la France, tout ce qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est ça un petit peu la question, c'est ce qu'on pensait être. On sait avoir tiré une leçon de ça, mais tout le contraire, on n'a toujours pas de limite pour répondre, pour reprendre ce qu'avait dit monsieur tout à l'heure. On refait, enfin l'humanité. C'est pas les mêmes, mais c'est l'humanité refait un peu les mêmes choses, les mêmes exactions et reproduit un peu ce mal d'une façon. Pas sans réfléchir, mais enfin, ça se refait comme ça et c'est vrai que ça. C'est difficilement compréhensible.
Parce qu'il n'y avait pas de leçon d'histoire.
Pardon.
Il n'y a pas de leçon d'histoire.
Voilà, l'histoire, mais ça. Oui, ça, je pense que c'est malheureusement vrai depuis très nombreuses années. Mais voilà, c'est à ce niveau-là, oui, c'est quand même un peu dommage qu'il n'y ait pas de solution.
Alors, juste avant, je vous donne la parole tout de suite, madame. Juste pour une petite précision, parce que ça avait fait l'objet d'une polémique au moment où le bouquin était sorti, le bouquin d'Anna Arendt était sorti, donc en 63, je crois, deux ans après le procès d'Eichmann. Banalité du mal ne signifie pas qu'on banalise le mal. Ça signifie pas de. Parce qu'il y a eu cette polémique en disant ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 5 500 000 personnes qui ont perdu la vie dans les camps d'extermination, est passé comme ça, à perdre ses profits, comme si c'était quelque chose d'ordinaire, ça ne signifie vraiment pas ça. C'est au contraire, c'est comment est-ce que le mal, on va essayer de revenir sur
peut s'inscrire dans la banalité de l'idiologie. Soit un personnage comme Adolf Eichmann, si on peut sortir de ce contexte-là, soit dans la trajectoire de telle ou telle troupe, de telle ou telle personne qui en vient commettre les pires des actions sur le sol ukrainien il y a quelques jours, quelques semaines, soit peut-être que ça va croiser certaines problématiques qui ont été débloquées dans le régime de nos existences personnelles. Nous, dans nos rapports sociaux, nous, dans notre rapport aux autres humains, nous, dans notre rapport aux non-humains, aux vivants, peut-être que nous sommes dans une sorte de banalité de la consommation. Nous détruisons du vivant, du humain ou non-humain, c'est ça aussi la journée. Madame, pardon.
Vous voulez lire ce que vous venez de dire, il faudrait d'abord définir le mal.
Alors.
Et ensuite, quand on l'a défini, savoir comment nous pouvons le ressentir, les humains peuvent le ressentir suivant les régions de l'homme et de leur religion.
Non, mais très bien. Mais alors que.
C'est ma réflexion première. Voilà.
Mais alors, qu'est-ce que.
Qu'est-ce que nous entendons par mal?
Qu'est-ce que vous entendez par mal? Vous et tout ça, vous.
Qu'est-ce
qu'on entend par mal?
Et est-ce que le mal est dit de la même façon par quelqu'un qui habite à nous, je sais pas, au Japon ou au Moyen-Orient ou en Afrique du Sud ou aux États-Unis?
La question du relativisme.
Relativisme.
Hélas. Madame a posé la question.
Je sens que non, que le mal, c'est aussi c'est lié aux religions. Je pense qu'il y a eu des massacres qui ont été faits au nom de la religion. Et est-ce que ces gens-là pensaient qu'ils faisaient mal? J'en suis pas convaincu. Au moins, oui. Au niveau idéologique, ils pensaient probablement qu'ils faisaient du bien. Pour leur religion.
Je vous laisse la parole. Je vous laisse prendre la parole, non? Et allez-y, je ne sais pas, monopoliser.
Oui, je. Effectivement, les religions, ça peut être à la fois pris pour prétexte. On peut dire, de toute façon, dans tel ou tel texte, interprété encore une fois, comment on interprète, le texte. Et puis, c'est au-delà aussi des religions, les croyances. On croit à des idéologies, des croyances.
Des croyances politiques, des croyances sociales.
Et on peut aussi être, avoir un esprit, on peut prendre mal, mais un esprit relativement faible. Et se faire embrigader, malheureusement, d'où l'intérêt d'essayer de penser, de réfléchir en commun, de se poser sans cesse des questions. Et puis il y a aussi la question du. L'obscurantisme aussi. L'obscurantisme, c'est terrible. Donc au nom de l'obscurantisme, au nom de croyances complètement stupides parfois, là c'est un jugement, mais on peut définir ce qui est bien et ce qui est mal. Effectivement, la notion du bien et du mal, c'est pas manichéen, c'est pas si simple que ça.
Oui, je pense que. Oui, pardon. Non, mais allez-y, non, mais. Le but, c'est que nous débattions.
Est-ce que c'est pas juste une histoire de point de vue, le bien et le mal? Ce qui peut être mal pour un peuple peut être vu comme bien pour un autre. Par exemple, ce qui se passe en Ukraine, nous voyons ça mal, mais les Russes. Pensent être dans leur bon droit, ce qui fait que c'est plutôt une histoire de curseur sur l'action elle-même. Nous voyons ça mal parce que on n'a pas eu la même propagande qu'ont pu avoir les Russes, qui eux ne voient pas ça comme une propagande, voient leurs actions comme comme le bien, mais nous voyons ça comme le mal finalement. Il y a vraiment un bien et un mal, est-ce que c'est pas juste une histoire de temps de vue?
Oui, on regarde ce que disait madame sur les questions de la relativité des valeurs.
Oui, c'est ça.
J'aurais plutôt. Oui, pardon.
Est-ce que pas un mal absolu, c'est-à-dire un mal qui serait en dehors de tout ça?
C'est pour qu'on puisse nous entendre.
Oui, la question c'était est-ce qu'il existe un mal absolu qui puisse être reconnu par tout le monde en fait? Parce que tout ce qu'on vient de voir, c'est. Oui, on a relativisé selon les religions, selon les cultures, etc. Mais est-ce qu'on peut parler du mal avec un tel majuscule?
En soi, majuscule ou pas majuscule, effectivement, l'un des éléments du. De la réflexion morale et éthique, c'est directement poser le l'enjeu, c'est de savoir si on est condamné à une relativité des valeurs en fonction des communautés humaines, des périodes, des zones géographiques, des ancrages idéologiques, religieux et autres, d'accord ? Et donc en ce sens, ben voilà, il y a ni bien ni mal, il n'y a que des conditions. Qui nous conduisent à penser que ceci doit être fait, que ceci ne peut pas et ne doit pas être fait au regard d'un socle de valeurs qui serait tout aussi relatif que le sont les latitudes de chacune des zones du vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Disait Pascal, plaisante justice, une rivière d'or. C'est-à-dire, voilà, ce qui est vrai là est faux là-bas, ce qui est juste ici est injuste là-bas. Ou est-ce que, vous avez évoqué, sous la forme en tout cas d'une hypothèse, est-ce qu'au-delà de cette relativité qu'on peut constater, enfin, en fait, en anthropologie, on constate que les Anunnakis, c'est encore, la façon d'honorer leur mort, c'est de les manger. Ils mangent leur mort. Ils mangent tout le cadavre, et puis si je commence à dire je vais manger le cadavre de mon père, je pense que ça serait mal perçu. En France. Donc, est-ce qu'on en reste à cette relativité ? Ou est-ce qu'effectivement, on pense un socle transcendant, un socle universel ? Est-ce qu'il n'y a pas mal absolu ? Votre nom, votre expression est très juste, c'est vraiment une expression d'origine sacrée. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des valeurs universelles à partir desquelles on peut dire, mais en fait, quelle que soit la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites, et de votre point de vue, vous avez sans doute de bonnes raisons de le faire. Les résistants français étaient considérés comme des terroristes. Allemands, et inversement. Donc, est-ce qu'au-delà de cette relativité des valeurs, est-ce qu'il n'y a pas un socle, enfin, un point universel en disant, mais encore une fois, vous avez sans doute de bonnes raisons de le faire, mais vous n'avez pas raison de le faire. Vous n'avez pas raison de le faire parce que ce que vous faites, c'est mal. Et ce mal-là, ce mal absolu, ce mal universel qui fait un et qui est unique, il est indiscutable. C'est indiscutablement mal. C'est évidemment mal. Deux et deux, ça fait quatre. Pour peut-être des raisons. Donc il y a des vérités logiques, il y a des vérités mathématiques, il y a des vérités physiques, et puis il y a des vérités morales. Il y a des vérités morales, et quelle que soit la raison qu'un soldat ukrainien puisse avoir pour commettre les actions qu'on a découvertes tragiquement ces derniers.
Oui, ça a déroulé, c'est bien.
Pardon. Quelle que soit les raisons qu'on a de faire ce qu'on fait, en fait, c'est mal. Enfin, c'est mal. Je dis pas que j'ai raison, je pose le problème.
Oui, je ne suis pas sûr qu'on s'en tire si on est simplement sur le plan de la normale. On a aussi le plan du droit. Et on a les génocides, on a les crimes contre l'humanité. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus tangible. Et puis, je me dis quelque part, qu'est-ce qui peut justifier qu'on tue quelqu'un ? Qu'est-ce qui peut justifier qu'on tue quelqu'un ? Qui est-ce qui peut m'expliquer ça ? Pour ça, je n'allais pas parler de la guerre juste. Non, on est autorisé à tuer. Qu'est-ce qu'il faut ?
Donc, tout meurtre.
Oui, tout meurtre, oui.
Est considéré comme l'expression.
Oui, c'est la limite, on voit les limites, c'est la limite absolue. C'est la vie, le droit à la vie.
Donc ça, ça serait le point universel à partir duquel on peut...
Bah sinon, on n'est plus des humains. Pour moi, sinon, on n'est plus des humains. Ouais.
Non, je n'ai pas vu. Oui, mais justement, sur la définition du mal, je reviens à intervenir, ça touche un peu ce que vous dites. J'allais me dire, si on peut considérer que la vie est un bien, peut-être qu'on peut partir de ce postulat puisqu'on est vivant. On pouvait dire en définition que tout ce qui porte atteinte à la vie ou à la qualité de la vie des autres est un mal. Là, je reviens un petit peu en arrière parce qu'on était sur la recherche d'une définition. Oui. Vraiment, ça recouvre oui. Ce que vous dites.
Oui, ça,
c'est
vrai.
Donc,
oui, monsieur a parlé du droit, c'est effectivement ce que je voulais citer. Il y a bien le tribunal international, le pénal de la haine. On évoque, vous l'avez cité tout à l'heure, le terme crime de guerre.
Oui, il y a les conventions de Genève.
Il y a les conventions. Voilà, exactement. Mm-hmm. Comme si on pouvait, d'ailleurs c'est un peu choquant quand on dit ça, parce que comme si on pouvait fixer des règles à la guerre. La guerre, c'est pas un jeu, c'est passé. Alors, moi, ça m'interpelle. Peut-être que c'est pour définir, je sais pas, c'est étrange de dire ça, un seuil à ne pas dépasser, je ne sais pas, mais c'est vrai, ça pourrait être au nom de quoi on pourrait retirer la vie à quelqu'un d'autre, un semblable, un humain pourrait retirer la vie à un autre humain. Donc, le droit international a pas à l'unanimité, mais avec beaucoup de pays quand même, a défini des.
Oui, mais vous voyez bien que, je me permets juste, j'interviens 30 secondes. Vous voyez bien que le droit, finalement, c'est simplement l'expression politique d'un socle de valeurs morales. C'est-à-dire d'une conviction. C'est-à-dire que le droit suit la morale. Pourquoi est-ce qu'on invente les conventions de Genève parce qu'en fait on sort de la Seconde Guerre mondiale? Pourquoi est-ce qu'il y a un tribunal international à l'air parce qu'on sort des guerres de décolonisation? Donc finalement, il y a un ancrage politique qui est simplement l'expression d'une condition des choses au monde, une condition morale, d'un pas en avant moral qui consiste à dire on ne porte pas atteinte à l'intégrité physique et morale d'autrui. Bon, c'est ça. L'universel, il n'est même pas dans l'ordre. C'est-à-dire que, l'universel de 1948, l'homme laisse libre de mon endroit. Quiconque porte atteinte à cette intégrité physique et morale est du côté de du mal.
En revanche, pour l'appliquer, ça devient plus complexe, puisque est-ce qu'on pourrait l'appliquer à tel ou tel président, dictateur ou autre qui aurait justement enfreint les lois?
Les dirigeants serbes ont été présentés, jugés, condamnés.
Non, c'était juste pour essayer d'apporter des contre-exemples à la phrase tout meurtre est injustifiable. Par exemple, des criminels de guerre qui, si on tue pas entre guillemets, leur vie va continuer à perpétrer des souffrances pour tout un tas de personnes, de communautés. Ça peut être aussi, et moi j'y connais personnellement, donc ça peut être le droit aussi de quelqu'un à vouloir mourir, enfin c'est la question de l'euthanasie, c'est-à-dire que si une personne ne souhaite plus continuer sa vie, en France c'est illégal, hein, le droit n'est pas encore, médicalement pour mourir, mais voilà, si la personne demande explicitement qu'elle souhaite mettre un terme à ses jours, du coup, ben, on n'a pas le droit de l'aider à mourir. Alors, mais on ne voit pas que ça soit comme mal en fait de l'aider à respecter sa volonté. Voilà, donc c'est juste pour essayer d'apporter des éléments de, que ça ne pourrait pas être le mal absolu, le meurtre de quelqu'un. Enfin, ouais,
très bien. Madame,
je suis ici.
On apporte une petite distinction.
Penser à la peine de mort. La peine de mort est encore.
encore beaucoup de pays dans le monde qui admettent en droit la peine de mort.
80 exécutions en une seule journée en Arabie Saoudite, au début de la guerre en Ukraine. Oui, c'est peut-être une petite précision conceptuelle par rapport à ce que tu disais, ce que vous disiez. Je pense que là, ce que ça nous oblige à distinguer, c'est la morale et l'éthique. La morale, c'est relativement simple. La morale, elle distingue, elle oppose. Elle oppose le bien, le mal. Bon. Le bien, c'est une sorte de commandement, une sorte de voix de la conscience qui résonne en moi et qui me dit tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. C'est une sorte d'impératif catégorique qui m'oriente vers ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Et si j'écoute la voix de la conscience, je sais très bien que je ne dois ôter la vie. Élargir le débat.
Hein. Oui, oui.
On peut aussi penser que je ne devrais ôter la vie à aucun vivant. Voilà. Ni dans un élevage, ni dans un abattoir, ni dans une partie de chasse en soleil. Et ensuite, non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La morale, elle s'impose à moi. Elle est sans condition. Elle est inconditionnelle, elle est hors contexte. Jamais je n'ai le droit, le moral, j'ai la possibilité, l'autorisation, je cherche le terme, de porter atteinte à la dignité d'une personne humaine, et de son élément humain en tant que c'est encore une fois. Il n'y a pas de bonne raison. Un dictateur, non, c'est un homme. Un russe, un ukrainien, un nazi, un hutu, un tutsi, ce sont des hommes. Et des femmes, et des enfants.
Je veux dire par là, si je viens avec un peu de logique devant vous, je pense qu'il y a un moment, je vais peut-être essayer de m'en mettre plus tôt.
Mais là, je suis plus dans la morale. Je suis plus dans la morale, je suis dans dans l'éthique. L'éthique, qu'est-ce que c'est? C'est l'application de la morale à des circonstances données, à des cas particuliers. La morale, elle oppose le bien et le mal, et très franchement, on sait très bien quand on vient y réfléchir un peu sincèrement, on se dit ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire, mais je sais que je ne devrais pas le faire. Et si je l'ai fait, j'aurais du remords. L'étoile de Hugo, là, sur la conscience, c'est magnifique. Parce que le remords qui viendra me manger, ça. L'éthique, elle oppose pas le bien et le mal, l'éthique, elle oppose le bon et le mauvais, le pire et le meilleur, et malheureusement, tu fais référence à la question de la fin de film, le pire et moins pire. Lorsque on se décide, c'est pas du tout. Si on veut penser les dangers. Lorsqu'on se décide à tuer une personne, soit pour se défendre soi-même, soit au terme d'un procès dans le cadre d'un cadre juridique qui autorise encore la condamnation, la condamnation à la mort, ou dans le cadre d'une guerre, lorsqu'on a un ennemi face à soi et qu'on nous a dit que cet ennemi, c'était forcément quelqu'un qui serait éliminé. Bref, lorsqu'on est dans ces situations-là, on est dans une situation éthique. On sait très bien que ce qu'on fait ne doit pas être fait, mais c'est peut-être la moins mauvaise des solutions, la meilleure des solutions, la moins pire des solutions, que là, dans cette circonstance-là, pour cet individu-là, dans ce contexte-là présent, on doit se résigner à ça. Que l'on doit, pardon, se résigner à ça. Si je prends la question de l'euthanasie, aucun médecin qui a pris par cœur son serment d'Hippocrate ne peut donner la mort. Le médecin n'est pas là pour donner la mort, il est là pour soigner et pour donner et prolonger la vie. Ça va, c'est contradictoire même avec le serment d'Hippocrate et donc avec la morale même de la médecine. Mais peut-être que dans des circonstances données, il faut passer outre la morale et accepter l'éthique. Accepter l'éthique, c'est accepter de ne plus opposer le bien et le mal, et accepter d'avoir ce que disait Jean-Paul Sartre, accepter d'avoir les mains sales. Accepter d'avoir les mains sales. Alors, il y a bien la limite, hein, c'est que où est-ce qu'on est ? On en a les mains sales, oui, mais jusqu'où ? Alors, excusez-moi, je vous ai coupé dans la. Parce que c'est, voilà, je pense que cette distinction, voilà, elle éclaire la question du mal en fait. Du point de vue de la morale, il y a du mal, du point de vue de l'éthique, il y a du mauvais. Et il y a du bon. Mais le mauvais, c'est pas forcément le mal, et le bon, c'est pas forcément le
mal. Ça me rappelle une phrase de Claude Bert qui disait un jour, l'éthique, c'est là où ça fait mal. C'est quand on est en conflit avec deux valeurs et qu'il faut les hiérarchiser. C'était pas pour ça que j'avais demandé la
parole. C'est ça, on a un dilemme et il faut le résoudre, ce dilemme.
Et ça fait mal. L'éthique, ça fait mal.
Ça
provoque une souffrance. Un dilemme, en tout cas. J'avais demandé la parole tout à l'heure à propos de la peine de mort, parce que j'ai entendu un jour une interview d'un homme qui avait été chargé responsable au Texas des exécutions capitales. Le Texas est un des États des États-Unis où il y a plus d'exécutions capitales. Et un jour, il a démissionné, et cet homme disait: une exécution capitale, c'est le plus prémédité de tous les crimes.
Alors, est-ce que c'est ouais, c'est plus prémédité, c'est-à-dire est-ce que c'est plus nécessaire?
Oui, je reprends la parole, là. Mais toi, pour élargir peut-être un petit peu au nom humain, à la question. Voilà, la banalité du mal, est-ce que dans cette notion de mal, il faut qu'il y ait l'intention? Voilà, en effet, c'est ce que vous avez dit. Voilà, parce que s'il n'y a pas l'intention, et que c'est de l'ignorance, est-ce qu'on peut parler de mal, en l'occurrence, quand on mange des millions, des milliards d'êtres vivants terrestres et marins, en ayant conscience de la souffrance que ça implique derrière? Est-ce que finalement on ne peut pas, on continue pas à engendrer, à perpétuer ce mal quotidien, alors quand on n'en est pas conscient, enfin, quand on en imagine, moi j'ai déjà des enfants qui pensaient que les escalopes de poulet apparaissaient dans les supermarchés en barquette déjà, qui ne font pas le lien avec la poule qu'il peut y avoir dans le poulailler, ou en plein air,
ou pas en plein air,
ou pas en plein air, ou en fait c'est l'un sur les autres dans des cages. Donc voilà, je voulais juste élargir un petit peu autre.
Oui, c'est ça, c'est ce qui oblige à. Alors, au-delà de la question du non-humain, du rapport à la non-humain, ce que tu obliges à interroger, c'est le rapport entre la violence et le mal. C'est-à-dire, est-ce que toute violence doit être considérée comme l'expression du mal? Au contraire, est-ce que ce qu'on entend par mal, et là on revient sur l'une des premières interventions sur l'ancrage religieux et sacré de cette notion, est-ce que le mal, ça ne réside pas uniquement dans l'intention? Parce que ce n'est pas l'intentionnalité qui donne à l'acte, ou à la poétique, ou enfin, à la conduite menée, qui donne à ce processus-là sa dimension à l'éthique. C'est-à-dire, effectivement, lorsque je consomme de la viande, est-ce que j'ai l'intention, au moment où je mange ma bouchée de steak haché, est-ce que j'ai l'intention d'être violent, de faire souffrir? Non. J'ai l'intention de mourir, ça me plaît, enfin moi je pourrais trouver mille raisons pour lesquelles je consomme de la viande, mais je n'ai pas l'impression d'être un intentionnaire, un bourreau, ou faire partie d'une chaîne de responsabilité dans laquelle des êtres de sensibilité. De la même façon que lorsque j'achète ces produits-là dans des enseignes communes, j'ai l'intention d'acheter une chemise et puis une veste. Je n'ai pas l'intention de mettre un jeton en plus dans la machine à exploiter des hommes et des femmes, ici ou là, et plutôt là-bas qu'ici, dans des conditions absolument inhumaines. Et pourtant, dès lors que je passe à la caisse de mon supermarché, de mon ancienne commune, dans le centre commercial, là, en fait, j'ai mis les mains dans l'engrenage. la banalité du mal, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois effectivement, des... j'ai pas non plus l'impression d'être X-Man. Hein. Voilà. Tout nivelé, c'est sympa. Voilà. Mais oui, mais je laisse la parole dans un instant, mais il y a un philosophe, c'est cette fois comme lui, il s'appelle Günther Anders. Günther Anders, c'est un philosophe allemand, qui est d'ailleurs à un moment donné partagé sa vie avec Hannah Arendt, et qui a pas mal bossé, beaucoup travaillé sur ces questions de responsabilité individuelle, collective, etc. Et qui, juste après le procès d'Eichmann, écrit une lettre ouverte, qui est remarquable, enfin, c'est une lettre ouverte au fils d'Eichmann. Ça s'appelle Lettre à Eichmann, lettre au fils d'Eichmann, je rappelle, lettre à Eichmann. Et donc, ça commence, voilà, Klaus Eichmann, voilà, vous avez le malheur d'être le fils d'Eichmann. Et sa thèse, c'est de dire finalement nous sommes tous des fils d'Eichmann. Nous sommes tous des fils d'Eichmann, nous ne sommes pas Eichmann, nous sommes tous des fils d'Eichmann. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où la modernité rationnelle, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, fait de nous des Eichmann, c'est-à-dire fait de nous des gourous soit par ignorance, soit par indifférence, soit par procuration. Et ce que je porte, là, je porte des vêtements de fils d'Eichmann. Je ne suis pas posé la question. C'est le point de vue transporté. Pardon, pas trop.
Tout à l'heure, vous avez évoqué le terme de description. Et je trouve que c'est peut-être dans cette voie-là qu'il faut poser. Quand on parle de description, il y a une forme. D'abord, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver. Il y a probablement une intentionnalité.
Ça, c'est vrai, ça, c'est le point, à mon avis, j'ai conscience d'eux.
Et le, voilà. Et quand, par exemple, on mange son escalope de poulet qui vient du supermarché, sans savoir qu'il y a un poulet derrière, moi, je mangeais du poulet, mais je savais qu'il y avait un poulet qui venait derrière, on n'a pas la conscience qu'on fait du mal quand on fait ça. Par contre, quand on...
Mais est-ce qu'on fait du mal?
Enfin, je sais pas, parce qu'en plus, c'est vrai qu'on élève les gens dont le métier c'est d'élever les poulets pour qu'on puisse les manger derrière. Alors après, ils les élèvent dans des conditions plus ou moins acceptables, on est d'accord. Mais moi, j'avais pas l'impression que quand j'allais donner à manger mes poulets, puisque j'étais dans une ferme, avant de les manger, j'avais pas l'impression d'être un criminel à la suite de ça. Mais bon, voilà. C'est pour ça que j'ai toujours la viande, mais j'ai un peu de mal à réduire ma consommation de viande quotidienne. Mais bon, par rapport à la destruction, je pense que quand on détruit des espèces animales par notre comportement, par notre façon de vivre, on sait qu'on va détruire un certain nombre d'espèces animales, même si on n'en a pas forcément conscience au quotidien. Maintenant, on le sait collectivement, il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous, et on le sait. Donc on sait qu'on est en train de détruire la planète. On est en train de détruire une partie de la planète. Et je pense que ce terme de destruction, ça fait tilt dans ma tête quand vous l'avez employé par rapport au mal. Je trouve que c'est dans ce sens-là qu'il faut creuser pour essayer de se fixer des limites, comme on en a parlé tout à l'heure.
Ok.
On va
prendre la parole, mais je vais
te
laisser
réagir. Ensuite. En termes de destruction, moi je me pose la question.
Il y a des dames.
Ah oui, en mieux.
Après, je passe le micro. On prend des tickets aussi. Ça.
Oui, non, à propos du mal pour les non-humains, pour les animaux, je voulais citer Marguerite Yourcenar qui disait que c'était peut-être parce qu'on avait accepté avec indifférence de voir les animaux charriés dans des wagons, dans des conditions épouvantables, qu'on avait ensuite aussi facilement accepté de voir les juifs partir dans des wagons plombés. Je crois qu'il y a une question de... Il faut se garder de devenir accoutumé ou habitué à la souffrance. Je crois qu'il faut garder vraiment sa sensibilité à la souffrance, qu'on veut se garder du mal.
mais c'est en termes de destruction, pour revenir là, c'est par rapport à quand les jeunes avec quand il y a les harcèlent avec Internet, des copains. Toi, t'es grosse, hein. Ils entendent une fille,
des insultes,
etc. Ils disent qu'ils détruisent, qu'ils cassent. Ils entendent le terme casser, c'est bien détruire, ça. Donc, ils n'ont pas conscience du mal. Alors après, au tribunal, ils disent, moi, j'avais pas conscience de faire mal. Il y a un phénomène, là, c'est l'éthique, c'est... Où on met ça, dans la morale ou l'éthique?
Non, alors, juste une... je vous laisse la parole tout de suite, mais non, parce qu'on va déjà préciser un point sur les sanctions entre la morale et l'éthique. L'éthique, elle vise toujours la meilleure ou la moins pire des solutions. C'est-à-dire que ce qui distingue l'éthique des comportements qui sont inadmissibles, d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique et d'un point de vue juridique, ou d'un point de vue politique, c'est son intention, c'est-à-dire que. L'éthique, elle vise à protéger, à défendre soi-même, une cause, une communauté. Elle n'est pas uniquement dans la destruction pure de l'autre. Si je prends l'exemple de l'éthique de défense, si j'étais amené à pouvoir me défendre, je ne cherche pas à nuire à l'autre, je cherche à me protéger moi-même. Si je suis. Si on se met du côté des résistants, les résistants français, ils organisent des attentats, ils tuent des hommes. D'accord ? Ils ne cherchent pas à tuer des hommes, ils cherchent à libérer leur territoire. Si on prend la question de l'euthanasie, on ne cherche pas à tuer une personne, on cherche à répondre à sa demande d'une vie abrégée de ses souffrances. Donc l'intention peut être, à mon avis, c'est le critère déterminant. Lorsqu'on harcèle quelqu'un sur Internet, moralement, éthiquement, indépendable. Pardon, madame.
Oui, moi je voulais revenir sur un truc qui est vraiment très très juste de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'indifférence. Et ça va rejoindre d'ailleurs ce que dit madame Maria. C'est, moi ce qui me fait peur vraiment, c'est qu'on est dans une société finalement qui nous bombarde d'images, d'agressions, d'agressivité, et jusqu'à quel point ça peut nous influencer sur notre propre sensibilité. Alors en fait, il y a des images qui paraissent insoutenables à un moment de ma vie. Aujourd'hui, je les vois tellement filmés partout, un peu les médias, que finalement, quand j'ai peur de moi, je me dis, ça ne fait même plus réagir. Et ça me fait peur. Alors, jusqu'à quel point on est capable, en tant qu'être humain, d'être désensibilisé. Mais j'espère qu'il y a cette lumière humaine quelque part qui me disait non. Non, il ne faut pas devenir insensible, c'est pas possible. Mais j'ai l'impression que dans la société, on devient comme ça, on devient insensible.
Oui, ça fait penser, c'est pas un enfant philosophique, c'est un historien. Sur la Première Guerre mondiale et qui avait introduit pour la première fois le concept de brutalisation. C'est-à-dire que ce qui s'est joué dans ces tranchées, pourquoi est-ce qu'on a pu commettre de tels carnages, c'est d'abord la responsabilité des dirigeants politiques, mais aussi parce qu'en fait, on s'habitue visiblement, à un degré de brutalité, de violence, de corps à corps, vraiment l'affrontement physique et direct, de telle sorte que finalement, on revient à ce qu'on disait au départ, ça se banalise, ça devient l'ordinaire. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir de sa tranchée comme on ira acheter sa maquette de pain, bien sûr. Ça veut dire que voilà, il y a une montée du niveau du seuil de violence acceptable dans certaines circonstances, certaines périodes de communauté ou de communauté, qui fait que atteint, c'est la capacité à se
s'éveiller, voilà, à s'éveiller, à se révolter, à s'indigner de la violence que l'on pratique, quand même, on est tous aussi acteurs de violence, que l'on subit ou que l'on voit subir. Effectivement, là, c'est médiatique. L'image que l'on fait sur un fil d'info, des images.
Moi, je voulais dire que la violence, elle existe aussi dans les mots. Et je trouve que justement, dans la période qu'on vit, on voit dans les débats, il y a de moins en moins de débats posés. Et moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui, enfin, sur un sujet qui est une heure qui était groupiste, elle me dit, mais les gens ne peuvent pas débattre. Ah ben non, parce que la règle, c'est de s'invectiver. Et ça, je trouve que déjà, là, c'est quelque chose qui ne va pas. Parce que si on est plus capable de débattre, il faut vraiment être agressif. Ça, moi, ça me choque beaucoup. Et je trouve qu'on repère les émissions, les articles, des choses comme ça, il y a des choses qui sont dites, qui sont posées.
Derrière aussi la recherche du profit. Hein.
Oui, bien sûr.
D'ailleurs, c'est souvent quand même, sur des chaînes privées, c'est un grand débat. Hein. Le principe d'un être, d'un adversaire qui vraiment, c'est la peine s'il n'en vient pas aux mains, et qui peut débattre pour que le débat prenne la suite. Ce qui en dit long aussi sur notre goût du sang. Goût du sang, c'est-à-dire qu'on aime aussi voir ce genre de joute verbale ou physique.
Oui, je voulais revenir sur la question de l'indifférence. Je pense que dans certains cas, elle peut être volontaire et cultivée. Le psychiatre Christophe Dejour avait fait une comparaison entre les mécanismes psychologiques mis en œuvre par les nazis pour enrôler les braves gens dans le travail du mal et les mécanismes psychologiques qui était à l'œuvre dans certaines entreprises multinationales quand il s'agissait de brimer des salariés. Alors évidemment, dans les entreprises multinationales, on ne les envoie pas en très très bon point, mais les dirigeants vont se concentrer sur les aspects techniques. Il faut assurer la compétitivité de l'entreprise, et pour ce faire, ils deviennent sourds et aveugles à la souffrance des salariés qui vont licencier. De la même manière que les nazis qui travaillaient dans les camps de concentration étaient obsédés par le rendement. C'est-à-dire des aspects techniques sont mis en avant pour complètement occulter la souffrance des humains.
La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que, pour reprendre ce que vous dites, madame, est-ce que le mal commence à. Le mal, on n'a pas l'intention de l'humeur à l'autre. Est-ce que le mal commence à l'indifférence? Est-ce qu'être indifférent à la souffrance d'autrui, humain ou non humain, est-ce que c'est déjà être du côté du mal?
Est-ce que ce n'est pas être déjà du côté de la banalisation? Je vais dire par là que, à partir du moment où on est sur une valorisation de l'individu, c'est-à-dire qu'on met en avant la concurrence, qu'on met en avant la compétition, qu'on met en avant la réussite de l'individu. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on tait la relation à l'autre? Et est-ce que ce n'est pas là qu'on banalise effectivement le fait que l'autre, s'il existe encore, en tout cas, je ne le considère plus.
Ou c'est un adversaire.
Ou c'est, oui, alors là, c'est aussi. Là, la relation existe, mais.
Donc, toi, tu irais jusqu'à dire que toute mise en concurrence, ou compétition, dès qu'il y a, le jeu d'un concours, par exemple.
À partir du moment où c'est un modèle de fonctionnement, moi je pense qu'effectivement ça commence à poser problème. Et on commence à banaliser certaines choses de la relation à l'autre.
Y compris si c'est une tension qui est réglée, parce que la concurrence, c'est l'organisation
t'as un conflit. Il y a des règles du jeu, hop, t'as dépassé la ligne, non, ça, ça ne se fait pas, ça, t'as le droit, mais ça, t'as pas le droit.
Oui. Ça veut dire que quand même.
Sur un ring de boxe, tous les coups ne sont pas permis.
Oui, non, mais. Non, non, mais ce que poser les règles, comme poser des règles, alors un éducateur doit poser des règles à l'éduquer parce que c'est un moyen d'éducation. Autrement dit, l'hypothèse c'est quand même qu'à un certain moment, l'éduqué sera dans une hypothèse qui n'aura plus besoin de règles. Là, il me semble que c'est une démarche déjà de relation à l'autre. C'est clair. Alors que poser des règles, ou de toute façon, toi, si tu t'exerces, si tu exerces ta puissance, que ce soit intellectuelle, physique, ou si tu exerces ta puissance, si tu réussis, c'est toi qui as le mérite. Et celui qui n'a pas ça, il est tout seul, enfin, chacun est tout seul dans son coin. Et c'est banalisé. Je veux dire, c'est la même chose que moi, il me semble pour certains aspects, dans notre société, c'est même banalisé.
Au meilleur, la meilleure place.
Il me semble que c'est une forme de banalisation.
Oui, par rapport à l'indifférence, je pense que d'une part, on peut s'interroger sur notre moins d'indifférence à ce qui s'est passé en Ukraine par rapport à ce qui s'est passé par exemple en Syrie ou ce qui se passe au Yémen, ou ce qui se passe en Afrique.
Madame avait un
peu
en
tête
France.
La question
est de vérifier. On a des drapeaux ukrainiens à Rue Jeanne d'Arc, on n'avait pas de drapeau syrien.
Non.
J'ai pas de drapeau.
Ça, on est bien d'accord. Mais alors, plus généralement, l'indifférence, le problème de l'indifférence, c'est est-ce qu'on est en, si on n'est pas indifférent, est-ce qu'on a la capacité de faire changer ce qui se passe? Est-ce qu'on a la capacité d'intervenir? Est-ce que moi, l'individu, Thomas, je peux. Intervenir, comment je peux faire changer ce qui se passe en Ukraine ou ce qui se passe en Syrie. Alors peut-être que ce qui se passe en Ukraine, j'ai l'impression de pouvoir plus intervenir parce que je fais partie d'un mouvement plus général en France et en Europe de dire c'est la défense de nos libertés. Il faut absolument qu'on montre qu'on n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est la seule capacité d'intervention. Mais j'ai un autre exemple, mais bon, entre-temps, on a passé à autre chose. Mais cette façon d'être plus ou moins indifférent, c'est aussi des fois, on ne peut rien individuellement, on ne peut rien faire pour que ça change. Et on n'est pas forcément indifférent, mais si on ne peut pas faire quelque chose, à quoi ça sert qu'on se. Alors, je ne sais plus quels étaient les Grecs qui disent. Ce que je peux changer, je ne sais pas si vous voyez
votre cas. Ah oui, c'est la phrase de Marc Aurèle.
Quand je peux changer quelque chose.
La sagesse de savoir accepter ce que je ne peux pas changer, changer ce que je peux changer, et savoir bien juger, savoir bien distinguer ce que je peux changer et ne pas changer. Il est mieux que moi.
Voilà.
Donc, savoir tracer le.
Ce qui peut paraître comme une indifférence par moment, c'est parce qu'on ne peut rien faire. C'est peut-être ça aussi. Enfin, je veux dire, il faut peut-être.
Ah, là, oui, là, à ce moment-là, enfin, on parle d'une indifférence. C'est vous avez une conscience. Le mal, c'est une histoire de soi, de rapport de soi à soi. Pas soi à l'autre, le mal, rapport de soi à soi. C'est la voie de la conscience. Donc l'indifférence, c'est. Ça n'existe pas, il y a un déni de réalité. C'est ce que Arendt reprochait à Eichmann. Arendt dit en gros, on s'imagine le mal toujours, l'inversion religieuse, c'est Lucifer, c'est les démons, il a les cornes rouges, il est monstrueux, il est hyper puissant. Et puis on tombe sur un type, franchement Eichmann, un crâne
créer un limite de fonctionnaire, c'est une lettre, son petit costume, etc. Et puis, j'ai pas l'impression d'avoir le mal devant moi. En fait, le mal, il est là, il est dans ce que Arendt appelle, je crois, cette expression de Ayn Rand, c'est le manque de pensée. Le manque de pensée. Le crime d'Eichmann, c'est qu'il est à Berlin, dans son bureau, et sa solution était d'organiser le transport des juifs d'Igan et autres communautés appelées à amener vers les camps de la mort. Donc, il a une énorme carte de chemin du réseau de ferroviaire européen derrière lui, et puis il organise ce transport-là comme il pourrait organiser le transport de n'importe quel marchand. Et finalement, c'est ça, c'est le manque de pensée, ça, c'est la différence. Ce à quoi vous avez fait référence, on n'est déjà plus normal. On est dans une prise de conscience. Donc un rapport de soi à soi, lucide, éclairé, et c'est dramatique. En fait, on a une prise de conscience et un sentiment d'impuissance. J'aimerais bien, mais je me sens faible, je me sens impuissant à changer quoi que ce soit dans une situation qui, à mes yeux, est et demeure intolérable. J'aimerais bien que le monde soit autre qu'il l'est, qu'il soit plus juste. Plus sensible, plus bienveillant, plus soucieux de l'autre, et puis en fait, d'être moi-même broyé dans cette machine à produire, à travailler. Donc, là, c'est peut-être pas normal, vous êtes dans la tragique. Vous êtes dans le tragique, si vous y référence au grec, le tragique, c'est ça. C'est, je sais que ça ne doit pas se faire, je sais que ça ne peut pas se faire. Enfin, voilà, c'est inacceptable, mais ça va se faire. On est chez Oedipe. Et qu'est-ce qu'il fait Oedipe lorsqu'il s'aperçoit que malgré lui, il a tué son père, que malgré lui, il a partagé la vie de sa mère, il se crève les yeux. Il ne change pas non, il se crève les yeux, il n'y a que ça. Il n'y a qu'à refuser de voir. Parce que voilà, ce que vous avez évoqué, c'est la tragédie. Pardon.
Oui, pour revenir aussi à la notion d'intentionnalité. Parce que dans la concurrence, par exemple, quand on prend la concurrence, l'intentionnalité, c'est quand même que la personne de concurrence, il fasse faillite, enfin, il fasse faillite, ou il vend moins bien que soi. Donc, moi, je trouve que aussi, on peut juger les choses à l'aune de l'intentionnalité. C'est quoi un objectif qui n'est pas positif, etc. Parce que je trouve que déjà là, il y a un biais. On est toujours sur la concurrence, c'est la compétition, c'est pas la compétence. Et ça, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses où si on les juge comme ça, et ou autrement, ça pose des choses à leur place. La valeur qu'on donne, elle n'est pas la même. Je trouve que si on a l'intentionnalité, c'est comme quand tu disais on achète un vêtement, etc. Bon, l'intentionnalité, c'est parce que c'est facile, c'est parce que c'est moins cher, c'est parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont. C'est vrai qu'après chaque cas, il faut réfléchir à chaque fois, mais
c'est ça. C'est ça, c'est dans la situation qui est la nôtre, ouais. Quand j'achète un vêtement, je ne peux pas ne pas savoir que je suis en train d'être faire. Et là, on est. Mais là, vous franchissez un point. Hein. Mais un peu plus loin, c'est-à-dire que toute mise en concurrence, c'est de la violence.
Oui.
Les Jeux Olympiques, il y a un premier, un deuxième, un troisième, ils sont sur le podium, le quatrième, il n'a rien.
Oui.
Et le dernier, il a participé, c'est sympa. Voilà.
Parce qu'on ne parle pas en plus de tous les à côté, de tous les effets collatéraux, de tout l'argent, ça ne fait pas aussi en plus. De l'intentionnalité, c'est de faire gagner, c'est un pays le plus élevé possible, pour sa puissance, pour satisfaire la puissance de.
Oui, ou le sportif aussi, ou la sportive qui veut ouais. Avoir la médaille d'or.
Mais si on décortique vraiment ce jeu-là, les effets du déterre, ils sont énormes. Enfin, ils sont très
énormes. Oui, c'est une position qui est massive. Une position normale, alors pour le coup, ça, on est une position vraiment dans le moral, c'est-à-dire que. Si, encore une fois, la morale, c'est ce qui nous commande de ne jamais nuire à l'autre, directement ou indirectement, puis dans le monde, une compétition, ça commande un cours de l'école,
Oui, moi, je ne vois pas concurrence du tout comme. Enfin, je ne vais pas dire synonyme du mal, mais je pense que la concurrence peut s'exprimer pour plein de bonnes choses. Faire des plus belles lettres, par exemple, tout ce qui est artistique, enfin, plein de choses. Pourquoi pas l'association humanitaire qui va essayer de faire le mieux possible. Je pense que la concurrence, c'est une stimulation qui peut aller vers le mal, avec plein de choses à côté, mais certainement beaucoup de fois vers le bien. C'est ce que je pense.
Là, il me semble qu'on parle d'émulation, qu'on parle de choses comme ça, plus que de compétition et de concurrence. L'exemple des Jeux Olympiques, par exemple, si je suis concurrent dans une école des Jeux Olympiques, ça veut dire que j'accepte d'être le dernier. Et je ne suis pas diminué par le fait d'être le dernier ou victime par le fait d'être dernier. Bon. Alors que dans la vie sociale, couramment, celui qui est battu, pour en parler entre guillemets, pour enlever le terme, il n'est pas du tout volontaire pour cette situation. C'est tout.
On revient toujours sur la question de l'intentionnalité, et cette fois-ci, comme tu l'as introduit, c'est la notion de consentement. Est-ce que tu consens à l'arrivée du jeu ou est-ce que tu ne consens pas? Et si tu ne consens pas, en fait, il y a contrainte. Est-ce que c'est contrainte?
Je ne suis pas forcément libéral, mais je pense que la concurrence, de toute façon, il y a, du point de vue économique, depuis tout temps, il y a toujours eu de la compétition, il y aura toujours de la compétition pour avoir le plus beau mammouth, ou le plus beau, je ne sais pas quoi d'ailleurs, le plus beau cheval, etc., etc., d'avoir le mammouth pour manger, plutôt que ça soit la tribu d'à côté qui naît, etc. Donc il y a toujours eu de la concurrence du point de vue économique. Et on peut rêver d'un État où il n'y aura pas de concurrence, mais je pense que là, on n'a pas une limite qui n'est pas possible de. Enfin, je veux dire, pour moi, ça me semble être impossible. On peut très bien avoir de la concurrence, mais alors après, ça dépend sur quelles sont les règles pour qu'il y ait de la concurrence.
Est-ce que c'est ça, c'est conflit n'est pas concurrence, c'est concurrence n'est pas conflit.
Voilà. Est-ce qu'on accepte. Et qu'est-ce qu'on a comme objectif quand on va concourir avec l'autre? On peut simplement aller aux Jeux Olympiques pour être content d'y participer. On peut aussi être concurrent avec une autre société en essayant de sortir un meilleur produit que cette société-là. C'est pas forcément la concurrence, c'est pas forcément au moins 10 ans, pas culturel, mais au moins 10 ans économique. C'est pas forcément toujours ça qui gagne. Il y a des entreprises qui gagnent parce qu'elles produisent un meilleur produit ou un meilleur service que l'autre. D'ailleurs, quand on est, nous, clients, qu'est-ce qu'on cherche? On ne cherche pas forcément toujours le moins cher. Des fois, on cherche le meilleur, ce qui correspond à ce dont on a besoin. Donc, on peut très bien avoir une...
Alors, ou ce qui correspond à nos valeurs.
Ou ce qui correspond à nos valeurs, voilà. La
passion durable, équitable.
Moi, j'achète une chemise en lin plutôt qu'une chemise en coton parce que le lin, c'est plus équitable que le coton. Voilà, par exemple. Même si je sais que c'est fait par des petites mains, pareil. Bon, mais c'est-à-dire qu'on peut, enfin, le dire qu'il faut la concurrence économique, c'est le mal, c'est un des mals absolus. Je trouve que c'est trop simplificateur. Je pense que la concurrence économique, de toute façon, elle existe, mais elle peut être constructive plutôt que destructive. Pour revenir, j'aime bien ce. C'est dommage qu'on n'essaie pas de creuser un peu là-dessus, sur qu'est-ce qui est destructif. Enfin, parce que le mal, ce n'est pas la destruction de l'autre, mais la destruction de l'environnement, la destruction des maisons, des bâtiments, comme on voit les villes ukrainiennes. Ce côté de destruction, à mon avis, c'est là où il faut qu'on. Pour moi, c'est ça le mal. Je pense que je n'ai pas.
Oui,
non, j'ai progressé grâce à votre mot là, c'est ce que vous dites, et je trouve que c'est une bonne définition. Quand on détruit, c'est sûrement là où est le mal.
Le mal, c'est je rebondis sur ce que dans son assemblée, est-ce que le mal, pour prendre votre terme, c'est la destruction, ou est-ce que le mal, c'est l'intention de détruire?
Autrement dit, si je ne veux pas jouer au professeur de philosophie avec des ismes, ce n'est pas du tout le lieu, c'est pas très intéressant. Mais finalement, est-ce qu'on est dans une posture intentionnaliste? C'est-à-dire, j'ai l'intention de détruire telle ville, telle espèce, telle communauté, autre que mon voisin. Donc c'est l'intention qui est de détruire qui en elle-même est source de le mal, d'accord ? Ou est-ce que c'est simplement les effets ? C'est-à-dire, ce que vous avez mentionné, je pense, hein, vous allez dire si je traduis correctement votre idée, c'est que la destruction, c'est le mal. Donc, quelle que soit l'intention qui préside à l'acte, dès qu'il y a destruction des espèces dans notre type de domination sociale, du monde humain, dès qu'il y a un effet destructeur, on est du côté du mal. Ou est-ce que on peut très bien dire, en fait, non, je ne l'ai pas voulu. Je ne l'ai pas voulu, personne ne l'a voulu. Alors, ni moi, ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le consommateur citoyen lambda qui se sent impuissant, ni moi, ni personne. Il n'y a pas de grand méchant loup qui soit aux commandes d'un État ou de je ne sais lequel. Direction multinationale qui se disent allez tiens si on détruisait les colibris on serait bien ravis et si on détruisait les océans et si on détruisait la planète etc. Sauf à rentrer dans des considérations où on va chercher les coupables on peut très bien dire ça détruit c'est pas moi je ne détruis pas ça détruit malgré moi ça détruit dans une organisation qui est une sorte de processus sujet, de processus mécanique, qui fait que on engendre des effets de souffrance, on engendre des effets de destruction, sans que personne ne le veuille. Et donc finalement, où est-ce qu'il est le mal ? Est-ce qu'il est dans l'effet lui-même, la destruction, ou est-ce qu'il est dans une intention de.
Pardon. Puisqu'on prenait l'exemple des Jeux Olympiques et de la concurrence, on peut rappeler la devise du baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes, qui, bien qu'il y ait émulation, concurrence entre les différents athlètes, disait l'important n'est pas de gagner, mais de participer.
Oui. Malheureusement, il y aurait beaucoup à dire sur mais sans lui, ça c'est une attaque ad hominem, mais c'est rien de pire. C'est vraiment pas un débat.
Oui, là, je m'écarte un petit peu certainement des choses, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est est-ce que l'être humain, foncièrement, né avec une certaine violence ou
c'est le sujet
de
la réalité du 15
ans. Parce que c'est très intéressant de voir avant qu'il y ait une éducation, une morale, une éthique, quand vous mettez des tout petits, des enfants ensemble, quand ils ont la conscience qu'un jouet peut leur appartenir, je ne vois pas un enfant dire non, je te donne. Généralement, c'est à moi, et puis il est prêt à aller dans une certaine agressivité. Donc, c'est intéressant, mais je sais que c'est des questions un peu philosophiques.
C'est même pas des questions philosophiques, c'est pour ça que moi je me sens un petit peu gêné pour prendre la parole sur ce point, c'est que c'est évidemment un philosophique plus mieux que l'humanité, mais j'ai l'impression que c'est plus aujourd'hui des questions qui relèvent des sciences. Des sciences du vivant, est-ce qu'il y a une agressivité naturelle à l'espèce humaine ? Je trouve chez les primates supérieurs. Voilà, nous sommes des mammifères, nous sommes des hominidés, nous sommes des primates supérieurs, nous sommes des grands singes en fait.
C'était un instinct de survie à la base.
C'est ça, et donc il y a cette question voilà, du substrat biologique, et puis des sciences humaines et sociales, je ne sais pas transformer ça en cours, mais effectivement, encore on pourrait penser à des contextes dans lesquels des pratiques d'entraide, des pratiques au contraire de conflit, de mésentention, d'égoïsme, de ça m'appartient et tu n'auras pas, sont plus ou moins valorisés, plus ou moins défavorisés. Donc ça, c'est plutôt de l'ordre des sciences humaines et sociales. Et puis, il y a la psychologie derrière, c'est peut-être un substrat émotionnel, qui fait que le trait de l'enfant comme l'adulte au-dessus, ou je ne sais pas, peut-être un jour, en fait, il y a ces pulsions qui sont des pulsions d'agression, qui sont des pulsions de destruction, qui sont des pulsions d'autodestruction, de défense et d'autodéfense, mais aussi des pulsions d'amour et d'entraide et de vie qui sont constitutives de notre humanité, de notre identité d'espèce. Et donc là, je pense que aujourd'hui, on a envie de laisser la parole du coup à un psychologue, à un psychanalyste, à un généticien, à un sociologue, à un anthropologue. Effectivement, il y a une constante. Le but, c'est que la constante, c'est tout à l'heure dans une question qui était posée, c'est qu'on étudie le décomité lui-même, on étudie le conflit, la tension, la violence, le massacre, entre guillemets, gratuit, l'occupation, le sens. C'est ça qu'on étudie. Mais alors, d'où est-ce que ça vient, ça? Moi-même, je reste un petit peu sans réponse.
Oui, il faut dire que par rapport justement au phénomène de neurosciences, etc., il y a justement des expériences qui ont été faites il n'y a pas très longtemps avec des bébés, qui avaient 6 mois, où ce que je dis, c'est-à-dire qu'en fait, on avait un petit travail, et instinctivement, quand même, quand les enfants sont petits, ils ont tendance à aller avoir des bienveillants. Et en fait, c'est comme l'empathie, et c'est quelque chose qui se cultive. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'éducation. Effectivement, si vous dites à un enfant, j'ai entendu combien de fois au square, une maman qui dit à cette personne, mais quand on tape dessus, il faut répondre. Quand un enfant il est élevé de cette façon-là, c'est sûr qu'il va avoir tendance à taper sur l'autre. Quand on leur dit, avant de se taper dessus, il faut se parler, je pense que là, justement, ce que dit Nicolas, c'est vrai que c'est maintenant avec les neurosciences, avec l'imagerie cérébrale, etc., il y a plein de choses qu'on peut voir et qui vont à l'envers de ce qu'on pensait avant. Et comme il y a un livre qui est sorti qui s'appelle L'autre loi de la jungle, par exemple, c'est on revient à la solidarité. Je pense qu'il y a beaucoup qui viennent de la culture du pays dans lequel on est, puis d'éducation qu'on peut avoir. Et que c'est ça, des fois, qui fait beaucoup changer les choses. Quoi.
Donc, il y a un substrat naturel. Il faut tous accepter qu'il y a une dimension naturelle à nos conduites. Mm-hmm. Tu parlais d'empathie sur les neurones noirs, des stratégies d'empathie qu'on a. Il y a une espèce animale, y compris la nôtre. Une empathie orientée, une empathie et me servir de l'empathie pour torturer l'autre. C'est exactement où ça va faire mal. Ce que tu me disais sur l'insulte tout à l'heure, c'est bien ce principe. Je sais que ce point-là, c'est un point de faiblesse, on est une empathie. L'empathie, c'est pas sympathie. Hein. On confond l'empathie, on a l'impression que pour le bel égard, bien orienté. Non, je peux être empathique, je sais très bien que là, ça va se faire mal et je vais appuyer dans cette faiblesse. Donc, ça, j'allais dire, voilà, nous sommes. Allez, c'est une intervention pour clore, puis un petit temps de conclusion.
Pour rebondir à nouveau, c'est l'épigénétique, c'est compliqué de savoir ce qui dépend de la nature, ce qui dépend de la culture. La part d'éducation est quand même énorme, mais en fait, même on a sûrement dans le cerveau, il y a le bug humain aussi, comment le cerveau. Câblé, rechercher le plaisir immédiat, rechercher l'accumulation, le plus haut statut social, qui nous pousse à faire des trucs qui sont socialement valorisés, alors que c'est complètement con d'avoir la plus grosse bagnole. C'est le système de dopamine dans le cerveau qui nous pousse à faire du mal parfois, parce que ça peut être perdu dans un groupe, le système de harcèlement social. Peut-être que la personne n'a pas envie spécialement de nuire à celui qui harcèle. Mais juste être intégré dans le groupe de harceleurs, à ce moment-là, ça peut être ça l'impression. Mais là, ce que je voulais dire, c'était par rapport à l'individu, on est des cerveaux dans des corps, mais en fait, on est aussi des héritiers de toute une histoire de l'humanité qui naît des bébés aujourd'hui dans un monde complètement verrouillé de tous les côtés, et que même si on a les meilleures intentions du monde, on n'est pas libre d'acheter, même si on peut penser toute sa vie, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on va consommer, ce qu'on va manger, ce qu'on va acheter, mais notre marge de manœuvre, à part être vraiment en marge de société, du coup être complètement exclu, vivre à la route complète, je pense que c'est quand même très difficile de sortir de ce carcan, de ce technococon qui a été créé autour de nous. Et en fait, on est les héritiers, malgré nous, de cette société consumériste qui recherche le profit à tout prix. Et le mal, il est aussi, si on prend la logique conséquentialiste, de se dire, ok, on veut bien faire, mais parfois on ne sait pas les conséquences à long terme. On dira, on veut privilégier les énergies renouvelables, ouais, mais tous les 90% de panneaux solaires, c'est fait en Chine, donc ça va être du charbon. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus vert, plus écolo. Et en fait, on peut faire du mal sans le vouloir aux générations futures qui ne sont même pas encore là. On a même accumulé un certain pouvoir de dire qu'aujourd'hui, avant, on pouvait entre tribus s'entretuer, mais c'est sur limité à des tribus, à des empires humains. Mais là, on a quand même à franchir une limite dans la destruction de notre propre environnement et de tous les toutes les espèces, en fait, animales, végétales qui coexistent. Donc, je ne vais pas jusqu'à dire que l'homme est le mal absolu, lui. Enfin, on s'apparente quand même à un virus sur cette planète, quoi. Un petit peu tout ce qu'on touche, même en ayant les meilleures intentions, mais l'enfer n'est pas une bonne intention.
Voilà. Oui, c'est ça, c'est qu'on va terminer sur une note un peu peut-être moins pessimiste, enfin, une note passionnée, parce que je
veux vraiment partager ce que tu as
dit. Oui, donc, banalité du mal, voilà. On voit bien que on est pris entre. Deux mots, MAUX, je reprends ce que vous disiez, monsieur, celui de l'indifférence et de l'impuissance. Pour revenir un peu sur ce qu'on a dit, évidemment que on a tous conscience à un moment donné dans notre existence, individuelle, privée et collective, d'avoir commis des actions dont on est assez peu fier. Tous eu à un moment donné une parole, un geste, une conduite malheureuse au sens produit, c'est-à-dire qui crée du malheur, qui crée de la souffrance, qui nuit à l'autre. Ça, j'allais dire que ça ne pose pas problème. Ça pose problème moral, ça pose problème éthique, ça pose problème politique et juridique, mais ça ne pose pas problème philosophique au sens où la règle est là, on l'a franchie et on sait qu'on pas dû la franchir. Et au moment où on le fait, on sait qu'on ne devrait pas le faire. On devrait mieux le refaire. Repentir et parfois le chemin du pardon. On demande du pardon. Et puis il y a ces deux mots qui sont ceux de l'indifférence et de l'impuissance. Et je pense que la question que vous avez posée et que Arendt pose en 1961, lorsqu'elle écoute Eichmann, dire mais non, je vais les ordres. Si ça plus qu'à moi, j'aurais été ailleurs, enfin bref, si on avait les mains ces deux mots-là, de l'indifférence et de l'impuissance, c'est des mots de notre modernité. C'est des mots de l'humanité, c'est des mots de notre modernité. Nous sommes dans des sociétés où la rationalité technique, et la parole de technococon, il y a deux minutes, le rapport à l'autre, il passe toujours par la médiation soit d'une administration, donc une hiérarchie pyramidale, soit d'un système mécanique, soit d'un système logistique qui fait que je ne vois pas. Je suis vraiment devant. Je suis vraiment, pour reprendre ce que tu disais pendant ta conférence à propos des menaces, vraiment face au visage de me commande de ne pas lui. Je me dis que tu ne tueras point, la morale c'est ça, regarde-moi. Finalement, c'est là finalement, l'indifférence qui ensuite va dériver vers une sorte de déresponsabilité, une chaîne de déresponsabilisation, une chaîne d'innocence, mais non, je ne savais pas, ah bon, c'est comme ça, c'est pas ça. C'est là finalement que l'indifférence, elle procède. qu'elle procède dans cette médiation, dans ce décalage entre l'acteur, celui qui agit, et les conséquences directes et indirectes à court moyen. Enfin, l'acte de consommation, c'est bien ça. Lorsque je consomme et nous consommons dans des pensées, j'imagine à peu près les mêmes, nous avons des mal, encore une fois, à imaginer la chimère. Et donc finalement, cette absence d'empathie, peut créer la compassion, il peut créer l'empathie, il peut créer finalement des liens plus cordiaux. Cette absence d'empathie, elle est la source du mal. C'est ce que Arendt a appelé la langue de pensée. Et puis il y a l'impuissance. Il y a l'impuissance, et je sais, je fais tout de mon côté pour essayer de, d'être un homme ou une femme de bien, autrefois, mais qui vise. Honnête homme, honnête homme, honnête femme, expression féminine. Et puis je sais, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que la tentation est trop forte, peut-être lien avec l'éducation, lien avec un substrat biologique, système de récompense, c'est ça. Je sais très bien que ce Kinder là, un gros mot, excusez-moi, je peux quand même dire, ça va être, quand j'achète un Kinder machin, là, ça va être, c'est de la merde. C'est pas du bon chocolat, c'est fabriqué n'importe quoi. C'est une oui, surtout en ce moment. C'est l'exploitation, c'était pour ça que les exemples ont été. J'ai pas fait. Voilà que, bref, c'est. On coche toutes les cases de ce qu'il faut pas faire. Et pourtant, ben bah, voilà, ça fera plaisir, ça fait plaisir. Ça. Donc il y a cette impuissance par rapport à mon désir, voilà. Par rapport à la force et à la puissance de mon désir, et puis cette impuissance sur, par rapport à un système qui a l'impression d'être un maillon parmi d'autres et de ne pas pouvoir faire grand-chose. Et puis, en fait, ce qu'on a envie de dire, mais est-ce qu'on doit se résoudre à dire, ben voilà, ça y est, on va pouvoir prendre notre partage. Je vais parler de petits groupes, on va dire, mais. Non, moi j'aurais plutôt envie de. Mais c'est pas forcément pour terminer par une pirouette optimiste, mais parce que je crois un petit peu. J'ai pas mal réfléchi sur la philosophie d'un peu et ça. Et ça, vous savez, il y a cette fameuse phrase qui avait fait beaucoup d'encre, et puis encore aujourd'hui, qui peut paraître scandaleuse, mais. Donc, en septembre 1944, Paris était libéré. Vous savez, Sartre écrit dans un. Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. Jamais nous n'avons été plus libres, je vous répète, jamais, je vais parler au micro, c'est peut-être mieux, jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. En septembre 40. C'est scandaleux, ça ne peut pas être scandaleux. Et elle continue, on nous insultait, on nous enfermait, on nous torturait, on nous déportait. Et c'est pour cela que nous jamais nous n'avons été plus. C'est la provocation, mais elle est vraiment très dépassée. La guerre n'est pas terminée. Hein. Soit ça a une valeur philosophique. Ce que veut faire comprendre Sartre à ses concitoyennes et ses concitoyens du moment, c'est que d'abord, c'est lorsqu'on est privé de liberté qu'on en prend conscience. C'est comme la santé, comme le bonheur, comme le sentiment être collectif. Mais c'est pas vraiment ça qui l'empêche. C'est que face à ce que je n'ai pas choisi, et je n'ai pas choisi de vivre à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, me concernant, d'être un citoyen français, et les jeunes esprits que Laurence et moi, on a tous les jours devant nous, ils n'ont pas choisi de l'être avec cette crise écologique sur la tête, là, en disant, il nous reste 3 ans, là, 2025. Vous avez 18 ans, vous avez ça dans la tête. Ça, on n'a pas choisi. Par contre, face à ce qu'on n'a pas choisi, on a toujours la possibilité, et pour ça c'est même plus que ça, on a toujours le devoir de se choisir par rapport à ce qu'on n'a pas choisi. Face à l'occupant allemand, jamais j'ai été aussi libre, jamais j'ai été plus libre, parce que soit j'attends que les choses se passent, je subis, et voilà. Et c'est ni bien. animal. Soit j'entre avec mes petits moyens, avec les moyens du bord, en résistance, et j'y vais. Et ça ne changera peut-être pas grand-chose, mais j'y vais. Soit je collabore passivement, soit je collabore activement, soit je m'enfuis, soit je me donne la mort. Et finalement, ce que dit Sartre, c'est que dans une situation de crise, comme on l'a vu les Français durant l'occupation, comme le vivent les Ukrainiens aujourd'hui, on se choisit par rapport à ce qu'on choisit. Et finalement, il me semble que le rapport au mal, c'est pas un discours. Non, c'est pas un rapport à autrui, c'est un rapport de soi. C'est-à-dire, que suis-je en train de faire, moi qui n'ai pas choisi de vivre dans le monde dans lequel je vis, que suis-je en train de faire? Est-ce que j'y assiste en spectateur? Est-ce que je prends fait et cause pour telle ou telle cause? Est-ce que je suis en Ukraine aujourd'hui? Attends. Est-ce que j'attends que les choses se passent et que d'autres agissent à ma place? Est-ce que j'en profite? Et finalement, il est là, c'est-à-dire que le choix, bien ou mal, le choix moral, c'est cette façon dont on va se poser par rapport à l'événement. L'événement, il est là, il nous tombe dessus, la crise écologique, elle est là, le système de la mondialisation capitalistique extractiviste qui exploite l'homme par l'homme, il est là. Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, comment est-ce que moi je me détermine de la façon à être, c'est peut-être un peu naïf, la façon à être le plus juste possible, de façon à ce que c'est des termes forts pour chez ça, de façon à ne pas être un salaud. Le salaud, je dis ça, c'est celui qui se trouve une excuse à faire ce qu'il fait ou à ne pas faire ce qu'il n'a pas fait, en disant j'avais pas le choix, le salaud c'est. Et finalement, c'est ça finalement la question de la réalité du mal. Est-ce qu'on a la force, et parfois on n'a pas la force, nous sommes des êtres, nous sommes des cerveaux, nous sommes des produits de notre éducation. Est-ce qu'on a la force, est-ce qu'on a des réserves, d'accord, pour soi et par les autres, pour résister par rapport à ce que nous n'avons jamais choisi? Finalement, comment est-ce qu'on se positionne? Et à mon avis, c'est ça la question de la réalité du mal, c'est est-ce que j'ai envie d'être un salaud comme Ishmael, ou est-ce que j'ai envie de faire autant que je peux. Il ne s'agit pas d'être un saint, personne ne l'est. De faire autant que je peux, autant que je veux dans une situation. Et le choix est là, finalement. Entre l'indifférence et l'impuissance, à mon avis, le troisième terme, c'est ce que dirait saint, c'est l'engagement. C'est la volonté. Qu'est-ce que je fais de mes bras, de tous mes cerveaux? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que je fais de mes organes? Qu'est-ce que je fais de mes diplômes? Qu'est-ce que je fais de mon argent? Qu'est-ce que je fais de mes compétences, de mes intellectuels? Qu'est-ce que je fais de mon rapport?
Alors, avant de vous conduire au bout de l'amitié qui aura lieu à l'étage au-dessus, je voulais vous transmettre un message de la même société. La directrice de la MDA, qui n'a pas pu rester avec nous, en ce moment, elle a fait beaucoup de l'accueil des Ukrainiens qui ont été attendus en centre Covid. Donc, elle m'a demandé de vous présenter ses excuses, mais elle m'a aussi dit de vous dire que si ça vous avait plu, elle nous inviterait à nouveau. Donc, ça, ce sera à vous de vous prononcer, de dire ce que vous êtes en tout cas. Voilà. Et puis, comment va le savoir? Vous nous envoyez des mails à Philomania. Si vous voulez nous dire que vous avez envie de recommencer, je pense que grâce à Madame Fouquier, on verra des tas si on peut réorganiser quelque chose. Et puis, si vous avez la possibilité de réimprimer chacun votre chaise sur le côté, ça sera très gentil tous ensemble. Et puis, on vous fera tout de suite après à la détail de l'entreprise.